voulais vous poser des questions quant au transfert en fait, des modèles de, par exemple, le Drac 37. Comment vous imaginez qu'il soit transféré d'un atelier à un autre? Est-ce que c'était la production qui était copiée, d'où la différence en fait, qu'on peut apercevoir parfois? Ou est-ce que les moules pouvaient aussi voyager? Est-ce que les potiers bougeaient d'un endroit à un autre?
Bon, déjà donc les moules étaient eux faisaient l'objet d'un commerce. Hein. Pour prendre rien que l'exemple de Lezou, on peut retrouver les moules de décorateurs dans tous les lieux de dans tous les groupes de production. On, par exemple, même, et même au-delà, on retrouve des moules de Lezou même à Millau. Hein, au début du deuxième siècle, on a des moules de Deschets 64. Du groupe des ateliers d'agro de marins qui sont utilisés à Millau. On en retrouve d'autres beaucoup plus au nord, à Toulon-sur-Allier. Bon, ça c'est une chose. Bon, on a également les potiers qui ne restent pas sur place. On a vu l'exemple de plusieurs potiers comme Ruthénos, comme Ostrus. Bon, il y avait aussi d'autres, comme bon, le potier de Ruthénos. Vers les années 70, qui a travaillé vers les années 70 à Lezou, venait du sud de la France et ensuite on le retrouve sur Metz. Donc, c'est des gens qui voyagent beaucoup. Bon, ça, c'est uniquement par rapport aux moules et aux décorateurs. Mais bon, ensuite, pour qu'on retrouve aussi les Drac 37 ou d'autres formes un peu partout, là, c'est un autre phénomène. Hein, parce, il y a des phénomènes aussi de mode. Quand il y a une nouvelle forme qui apparaît dans un centre de production, apparemment, c'est très vite repris ailleurs. Mais ça, on s'explique peut-être un peu moins. Je ne sais pas si Armand veut rajouter un mot. J'ai un micro.
Oui. Oui, il y a une étape dont on n'a pas parlé, justement, c'est l'atelier de Lyon. Alors, dans le cas de l'atelier de Lyon, on a eu justement la preuve de transfert d'outils et de main-d'œuvre. Donc là, c'est des potiers qui travaillaient d'abord à Arezzo, qui sont venus à Lyon, donc ils ont fait de l'Arezzo à Lyon. Donc là, c'était clair, c'est pour diminuer probablement les coûts de transport, puisque c'est des ateliers qui ont surtout diffusé sur la vallée du Rhin et qui ont fourni l'armée. Alors après, on pense justement que c'est ces ateliers, c'est une partie de ces potiers qui ont essaimé quand les ateliers de Lyon disparaissent et qui ont pu aller à la Grovesanck. Parce qu'il y a un potier qui est très important, par exemple, qui s'appelle Atheus. Alors, est-ce que c'est Monsieur Atheus ou simplement des agents? C'est pas Atheus, c'est un patron d'entreprise, et donc c'est pas lui qui s'est déplacé. Mais on a des estampilles d'Atheus en Italie. Après, on en a à Lyon ou à Vienne, d'ailleurs. On pense plutôt que c'est Vienne aujourd'hui. Et puis, on va le retrouver à la Grovesanck. Donc, eux, ils avaient déjà leur modèle, leur technique. Ils pouvaient faire venir des esclaves. Même si après, on voit que c'est des hommes libres, il y a forcément des gens qui sont venus les former. Enfin, on pense qu'il y a des... ça a fonctionné comme ça. Alors pour la diffusion des modèles, ben on peut penser que c'est aussi les commerçants qui commandent... Est-ce que c'est les petits qui créent des nouveaux modèles ou des commerçants qui leur passent des commandes et qu'après, ils se copient entre eux? Ça, c'est très difficile à déterminer. En tout cas, ce qui est certain... Et ça, c'est justement les enquêtes ethnographiques, mais pas seulement sur les périodes anciennes. On évoquait le nombre de potiers qui travaillaient à la Grovesanck ou à Lezou, et qui sont uniquement les gens qui signaient. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus. Bon, s'il y a 900 potiers qui signent à Lezou, ça fait combien de milliers de personnes? Donc c'est énorme. Et on voit que dans la plupart des ateliers, même des petites structures 18e, 19e, il y a une sectorisation du travail. Il y a une hiérarchie en plus. On sait bien que ce n'est pas tout le monde qui fait les cuissons. Ça, c'est un rôle très important, qui est souvent avec des connotations, justement, religieuses. Hein. On fait des sacrifices. Et pour tous les potiers, dans tout, là aussi, on pourrait prendre l'exemple en Afrique ou autre. L'exemple qu'on voyait des cuissons en meule, là, c'est chaque fois une vieille qui fait la cuisson. Et si elle est un peu magicienne, ça encore mieux. Et il y a souvent des sacrifices autour du feu avant d'allumer le feu. Et d'après, dans les graffitis, les graffites de la Grovesanck, on voit que justement celui qui met le feu, c'est le flamen quelquefois, mais c'est aussi le nom d'un prêtre, le flamen. Donc on voit que là, il y a aussi ce genre de connotation. Et on est obligé, justement, l'intérêt des ateliers comme FES, bon, ce n'est pas les petits ateliers ruraux qui peuvent permettre de donner des schémas d'interprétation pour l'atelier Tigilé, c'est des ateliers comme FES, là où il y a des grosses productions, une production qui est quand même très technique, puisque c'est des faïences. Et là, on voit bien que le travail est très hiérarchisé, et qu'à ce moment-là, forcément, il y a des fabricants, des gens qui font que fabriquer des moules, et c'est pas les tourneurs qui fabriquent leurs moules, et c'est pas les fabricants de moules, probablement, qui fabriquent leurs poinçons. Puisque c'est pas un travail de potier, on a bien vu, c'est de la sculpture, le poinçon. Et un bon potier, il est pas forcément un bon sculpteur. Et dès le moment où il y a des entreprises spécialisées dans la fabrication des boules, ben elles peuvent les vendre à tout le monde, quoi.
Questions pour Philippe Bay. Trois questions. Donc l'une sur les pâtes siliceuses. Est-ce qu'il y a des pâtes siliceuses dans ces ateliers dits de sigillé? Il me semble que tu en as parlé ou à propos de montants ou je ne sais plus. C'est ça. Deuxième question. Est-ce qu'on trouve des tubulures dans les ateliers de sigillé? Est-ce qu'on trouve des tubulures partout? Et puis enfin, est-ce qu'on peut parler d'une distribution privilégiée dans les camps militaires du limès germanique ou autre? Voilà.
J'ai déjà oublié la première question.
Oui.
Donc, c'est un schéma un peu qu'on retrouve dans tous ces grands centres de production. Même pour Millau, on commence par des pâtes aussi non calcaires. Mais là, pour Montance aussi. Hein, pour Montance, c'est, bon, c'est vraiment les premières années. Après, on passe rapidement aux pâtes calcaires. Pour le zoo, en revanche, c'est quelque chose qui a duré très longtemps, quasiment un siècle. Hein, pendant donc un siècle, on a fabriqué tout ce qu'à l'uso on appelle de la céramique sigillée. Mais en fait, ce n'est pas de la céramique sigillée, selon les normes un peu qu'on veut reconnaître habituellement, avec une argile calcaire. Donc, avec selon les normes de mon respiration, c'était à 7% de calcaire. Mais en fait, on voit que dans d'autres lieux de production, comme à Big Vailor, par exemple, on a des pâtes calcaires, mais il n'y a seulement que 4% de calcaire. Bon, après, il faut, je crois pas.
Toi, tu les appelles quand même ateliers de sigillé.
Oui, parce que là, on a vraiment toute la. À part le fait qu'on a utilisé des pâtes, donc il y a toute la morphologie, tout le système, tous les décors. Et pour la morphologie des vases, pour les formes, c'est absolument très rigoureux. Hein, je vous ai montré les comparaisons entre Millau et le zoo. Bon, mais c'est aussi valable avec Montant. C'est strictement les.
Donc, parce que je dis pour soi, parce que si je puis me dire, répéter un mot célèbre de Maurice Picon, quand on avait présenté nos ateliers de Boutot, il avait dit c'est pas possible qu'il y ait des ateliers de sigillé avec des argiles alluviales, c'est l'alliance de la carpe et du lapin. Voilà ce qu'il avait dit exactement.
Et d'autre part, on a aussi des fours à tubulure au 1er siècle, alors qu'on n'a pas d'argile calcaire avant. Armand avait fait un article en 1993 là-dessus au congrès de Versailles. Et c'était justement par rapport à des tubulures trouvées sur le site de la ZAC de l'Enclos.
Pour ajouter quelque chose, c'est-à-dire qu'on a dit au départ que la tubulure, c'est pour vitrifier en mode A, mais ça a de toute façon l'avantage de préserver des coups de feu. Et si on a une production rouge extrêmement homogène, en étant sûr d'avoir toujours la même couleur et pas d'accident, ben avec les tubulures, c'est bien. Et c'est pour ça qu'à Lezoux, finalement, ils doivent faire des tubulures dès le 1er siècle. Et c'est vrai que c'est quand même une production de belle qualité, qui n'est pas vitrifiée, mais souvent un vernis orange très, très uni. Et je pense qu'aujourd'hui, que le début des productions de Sigil Clerbé dans la Vallée du Rhône, c'est de la gazette ou de la tubulure, parce que justement, c'est tellement homogène par rapport aux productions plus tardives que je pense que c'est à l'abri des flammes.
Faut de four électrique à l'époque.
Voilà. D'accord, parfait. Donc tubulure partout.
Deuxièmement, pour le mode C, c'est obligatoire. Hein. Donc, et ensuite, même pour le 4e siècle, on retrouve encore des tubulures, même avec des cuissons moins poussées. Mais après, au 5e, déjà, là, on a des. Je vous avais montré pour Châtel-Chéhéry en Argonne, dans la partie nord de l'Argonne, on a donc des productions avec un cœur noir. Donc là, ça veut dire qu'on n'a plus de tubulure.
scientifique ou pas?
Non, peut-être au début, mais bon, c'était peut-être une céramique plus pour les militaires et les riches, mais ensuite, c'est tellement devenu une production de masse.
J'avais une question. En fait, j'ai été frappée par le fait que pratiquement chaque fois que tu présentais un four, tu pouvais associer une catégorie produite à l'intérieur. Enfin, et c'était lié, mais quoi, à des conditions stratigraphiques particulières. Ou par exemple, tu dis, il a servi à faire de la métallescente. Ce four a servi à faire de la métallescente. Ce four a servi, etc. En dehors des fours de sigillés, je veux dire.
Donc, en fait, c'est pas pour chaque four, c'est juste pour les fours auxquels je le dis. Et donc, bon, pour ces fours à métallescence, c'est vrai que là, on retrouve des nuées de Tessonaille. Pour le four de Terra Nigra que j'avais indiqué, pour le Reims également. Donc, c'est parce qu'on avait plein de tessons de Terra Nigra au fond du four. Bon, mais en sachant que ce n'est pas que l'une des cuissons. Bon. Mais là, sans doute, on ne peut pas dire systématiquement, surtout pour les fours à céramique fine, bon, ça peut servir aussi bien en mode A qu'en mode B. Il faut se méfier. Après, il y a aussi des aspects aussi des parois qui peuvent aussi indiquer comment peut être la dernière cuisson.
Et puis sinon, juste une remarque, en fait, si parce que tu as montré des bassins de préparation et de décantation tapissés de tuiles, donc il y a sans doute des fours qui ont aussi servi à cuire les tuiles qui ont tapissé les bassins.
Oui, tout à fait. Oui. Donc, je vous ai mentionné également qu'un des groupes d'ateliers, celui du thé Fromenteau, était très orienté pour la fabrication des tuiles. Bon, il y avait aussi quelques fours à sigiller dans cet ensemble-là, et vraiment aussi de la production de grosses céramiques communes.
Et enfin, juste une dernière question par rapport à ces structures de cuisson, puisque ce sont en gros les indices que vous avez retrouvés à Lezoux. C'était, est-ce qu'il y a d'autres traces, d'autres artisanats que l'artisanat potier
pour Lezoux,
dans ces zones-là, en fait?
Pour Lezoux, non. Non. C'est vraiment essentiellement à 99% que de la céramique, alors que ce n'est pas le cas dans d'autres lieux de Gaule centrale. Comme les martes de verre, donc là c'est dans un petit vicus, donc il y a d'autres activités.
Donc c'est vraiment une production industrielle, enfin, c'est le terme d'industriel, juste. Quoi. Enfin,
c'est vraiment une production de masse, vu que depuis Jacob, on a du mal à utiliser le mot industriel pour ces productions.
Oui. Bon, moi ça me choque pas en fait.
Non, il y a. Oui, mais là aussi. Jean-Paul refusait ce terme-là parce que ça faisait appel au 18e, tout ça.
C'est la mécanisation. Je dis la révolution industrielle. Donc, dans le terme industriel, il y a ça. Donc là, il n'y a pas de mécanisation, c'est clair, ça reste des. Mais on dépasse le stade de l'artisanat limité. Oui.
Armand tout à l'heure, oui, j'ai pas montré la bonne cigare, enfin j'ai montré une cigare de douche, mais effectivement c'est pas du tout la forme qui pourrait, en tout cas elle correspond pas vraiment à la norme, hein. c'est parce qu'elle est complète, mais en fait elles sont beaucoup plus allongées, et puis c'est vrai que on n'a pas de cigare qui ressemble aux barates de l'atelier d'Alcasse, hein. Donc il n'y en a aucune qui a cette espèce d'extrémité légèrement en forme de forme presque un fond. Donc, je l'ai montré comme ça, mais ce n'est pas le meilleur exemple que j'aurais pu montrer.
Justement, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que vous avez fait des séries de mesures sur les diamètres d'embouchure, par exemple? Ça aurait peut-être le coup de faire des mesures en série pour voir s'il y a des modules et si.
Tout à fait.
Je profite pour rajouter que je l'ai signalé à Pascal, mais pas à vous. Qu'il y a un atelier au Maroc qui fait exactement les mêmes choses qui sont des barates, hein, que celles Mais à côté de ça, il y a d'autres formes de baratte dans d'autres régions. Ce n'est pas du tout un type de baratte qu'on a partout. Il y a différents types de
baratte. Du coup, la communication d'Armand rejoint des choses que je n'ai pas dites dans la mienne, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout expliqué la question de la distribution, c'est-à-dire qui s'occupe de diffuser. En fait, c'est vrai que les potiers, bon, ils font un petit étal devant leur porte, ils mettent éventuellement un peu plus loin le long de la route, mais effectivement, dans le cas des tuiles, puisqu'ils font beaucoup de tuiles aujourd'hui dans le nord de l'Égypte, et puis ces pots avec des vernis à l'intérieur, des glaçures à l'intérieur, pour faire des sortes de tagines, des préparations sucrées, etc. Ça doit partir, entre autres, à Alexandrie. Et là, il y a vraisemblablement des transitaires, enfin des commerçants qui diffusent ce genre de production. Donc ça, faut l'ajouter par rapport au topo que j'ai présenté.
J'ai visité un village de potiers à Rabat, et en fait, c'était assez touristique, bien entendu. Mais à côté, il y avait d'autres artisanats. Est-ce que vous avez vu ça aussi? Parce que là, il n'y a qu'un seul artisanat. Donc, ce que j'avais visité à quelques kilomètres de Rabat, c'était d'autres de la forge, etc. D'autres. Et c'est ça, tout à fait. Voilà.
Juste rajouter par rapport à ce qui est dit tout à l'heure à propos des cérémonies avant et des rituels accomplis avant, par exemple, le début de la cuisson. C'est aussi ce que Thierry Guenbul et Sylvie Barrière ont dit quand ils ont présenté leur enquête, une partie des résultats de l'enquête sur les potiers Prajapati du Népal. C'est qu'il y a des cérémonies avant le début de la cuisson. Il y a des sacrifices autour des meules, etc. Donc l'idée de relier effectivement, en tout cas pour l'Antiquité, les sphères artisanales, religieuses et aussi domestiques ne sont pas séparées en fait. Oui. Tout ça se fait en même temps.
Oui, il faut rappeler que, en tout cas en Afrique, dans beaucoup d'endroits, les potiers sont liés aux forgerons, et c'est tous les deux des parias. Hein. C'est un peu magique de jouer avec le feu et de transformer la matière. Donc ça ne peut pas être neutre, quoi. On peut pas, quand on fait une cuisson et qu'on va, on est un peu Deus ex machina en transformant la matière. Il n'y a que les dieux qui transforment la matière, donc on ne peut pas faire ça.